à l'ombre du baobab.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'ombre du baobab où nous parlons médecine naturelle aujourd'hui, aromathérapie, acupuncture, hypnose, médecine chinoise ou japonaise en l'occurrence ce matin, fleurs de Bach pour n'en citer qu'un très petit échantillon car les méthodes sont quasiment innombrables d'ailleurs. Comment s'y retrouver et à quoi cela sert-il? Pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers ces pratiques dites naturelles? À quoi faut-il faire attention? Les pratiques et les formations étant plus ou moins libres, comment ne pas se faire piéger par un charlatan? Bref, des questions, il y en a plein auxquels on va essayer de vous apporter quelques éléments de réponse ce matin à l'ombre du baobab. Et vous pouvez bien sûr poser vos propres questions par SMS au 939. N'oubliez pas bien sûr de précéder vos messages des trois lettres FRI. Voilà, on attend vos questions. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler moi toute seule des médecines naturelles. J'accueille trois invités féminines en studio ce matin, à savoir Dorothée Derens. Vous êtes praticienne de Shiatsu à Fribourg. Bonjour.
Voilà, bonjour madame.
Bienvenue à vous. Caroline Moulet du centre Souria à Villarimbout. Vous êtes notamment spécialisée dans la pratique du Reiki et vous êtes une spécialiste des fleurs de Bach. Je dis notamment parce que vous faites encore plein de choses, hein.
Oui, c'est ça.
Bonjour à vous. Et puis avec nous également Franca Scozzari. Excusez-moi, j'écorche votre nom. Franca Scozzari, vous êtes nutritionniste et vous tenez le centre Espace Vie à Ria. Vous avez également un cabinet à Vevey et vous pratiquez notamment l'hypnose pour régler les troubles,
les troubles du comportement alimentaire.
Parfait.
Tout à fait.
On va avoir l'occasion donc d'en parler ce matin. Bonjour à vous trois. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous dire comment on définit le terme naturel dans le cas des médecines naturelles? Ça fait un peu grand bazar, on regroupe tout et n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on entend par médecine naturelle?
Alors, dans mon cas, ce que je peux dire, c'est que vraiment la médecine naturelle ne fait pas entrer en matière une médication proprement dite dans le sens chimique. C'est vraiment une prise en charge de la personne dans sa globalité. On va plutôt être en contact avec ce que la personne vit en entier dans sa personne, plutôt que de soigner un organe ou de soigner juste une maladie. On prend vraiment en compte l'être dans sa globalité.
Donc ça n'a rien à voir avec la méthode ou avec les plantes utilisées? Non, pas forcément, puisqu'il y a des pratiques de massage, c'est ça?
Non, pas forcément. Ça englobe vraiment toutes les offres dans les thérapies, les médecines douces ou médecines complémentaires, telles qu'on les nomme.
Dorothée Derens, c'est aussi votre vision médecine naturelle?
Je rejoins tout à fait ce que madame a dit. Le shiatsu en particulier est basé sur la médecine chinoise quand même, ce qui est une médecine très ancienne, très traditionnelle, et c'est une médecine aussi naturelle et empirique, basée sur les erfahrungs, donc l'expérience, l'observation de la personne tout entière.
L'hypnose, c'est peut-être un petit peu différent. Est-ce que c'est une médecine naturelle?
Alors, je dirais que l'hypnose, c'est plutôt une médecine brève, hein, parce que c'est vraiment d'ordre du développement personnel, où les gens viennent me voir pour vraiment se développer eux, ou aller, je dirais, d'ordre de la transformation.
Médecine naturelle ou non conventionnelle, en opposition à la médecine traditionnelle ou plutôt scientifique, ça fait comme si on ne vous accordait au fond pas beaucoup de crédit. Est-ce que c'est ce que vous ressentez?
C'est juste, mais ça change. Ça change lentement parce que la médecine occidentale, donc notre médecine de ces dernières deux siècles, il est devenu très très technique, très médico-technique, très avancé, très puissant. Mais il oublie parfois la personne et ses émotions, son esprit, son âme. Et là, les médecines alternatives, douces, complémentaires, ce que, comme vous voulez le dire, est une médecine qui voit la personne derrière sa maladie. Et c'est ça qui est important.
C'est vraiment prendre en compte le ressenti des gens?
Oui.
Mais c'est pas scientifique, oui, effectivement.
C'est pas très objectif, c'est juste. Donc, c'est pour ça aussi que nous, comme praticiennes, parce que je n'aime pas dire le mot thérapeute, je me sens une praticienne, nous devons faire très attention à ne pas jouer au docteur.
Pourquoi?
Il faut rester sur son terrain. Donc, le terrain de l'écoute, et puis de ne pas empêcher par exemple une personne d'aller voir un médecin si on soupçonne que il y a un vrai problème. Là, j'envoie toujours les gens chez un médecin. Mais nous avons quand même une formation, je dirais paramédicale, En tout cas, dans le cas des shiatsu.
Pourquoi vous n'aimez pas le terme thérapeute?
Parce que c'est trop prétentieux. C'est vrai qu'on fait beaucoup de bien aux gens. Mais je trouve le terme thérapeute trop prétentieux.
C'est donc, on parlait de cette question de crédit. Dorothée Derens, vous disiez que c'était en train de changer, vraiment.
Oui.
C'est aussi ce que vous ressentez, qu'on ne vous accorde pas beaucoup de crédit en tant que praticienne de médecine dite naturelle?
Je pense vraiment de plus en plus il y a cette demande de la part des personnes, parce que même si la médecine traditionnelle a fait d'énormes progrès technologiques et j'ai pu en bénéficier, donc je vais pas dénigrer, je pense qu'on en a vraiment besoin, mais si on pouvait marcher main dans la main avec la médecine traditionnelle, là je pense qu'on ferait vraiment un grand pas, et on peut vraiment le voir aussi par rapport au personnel médical qui s'intéresse quand même à ces pratiques, et j'ai énormément d'infirmières qui viennent aussi se former pour pouvoir offrir peut-être un peu de temps, de réconfort à leurs patients.
Oui. Mais est-ce que les médecins vous voient comme des concurrentes?
Oh, pas toujours. Non. Je suis surprise, pas toujours. Il y a aussi cette forme, cette attitude, mais pas toujours. Il y a aussi une grande ouverture.
Oui, ça change vraiment.
Oui, ça change.
Ouais.
Est-ce qu'on a des chiffres des gens qui se tournent vers les médecines naturelles? On sait qu'il y a vraiment un essor, il n'y a qu'à aller voir sur internet pour voir, c'est impressionnant le nombre de sites, le nombre de congrès, le nombre de méthodes, c'est impressionnant. Mais est-ce qu'on a vraiment des chiffres pour savoir quelle proportion de la population fait recours à ce type de médecine?
Je ne pourrais pas dire, non.
Je n'ai pas de chiffres. Ce que je peux voir aussi dans la pratique et dans les cours, c'est qu'il y a 15 ans, quand j'ai débuté, la moyenne d'âge, c'était peut-être 40-50 ans, alors que maintenant, les jeunes s'intéressent à ça. Et j'ai souvent des adolescents ou des jeunes mamans qui s'intéressent parce qu'elles ont envie de pouvoir apporter autre chose au sein de leur famille.
Franca Scozzari, je fais attention de ne pas écorcher votre nom. Vous êtes nutritionniste à la base.
Nutritionniste,
mais nutritionniste donc traditionnelle.
Traditionnelle, oui. Et j'utilise l'hypnose comme un outil d'accompagnement pour justement pouvoir les aider dans leur pulsion alimentaire, dans leur schéma, si vous voulez. Donc pour moi, c'est vraiment un outil qui les accompagne.
Mais alors,
c'est un outil extraordinaire qui permet de libérer certaines émotions qui sont dues à l'alimentation.
On imagine que quand vous avez fait vos études de nutritionniste, on vous a pas forcément parlé d'hypnose.
Pas du tout, non. Je me suis intéressée après, en fait, parce que je suis une grande passionnée des troubles du comportement. Et j'ai trouvé que l'hypnose était vraiment cette technique qui permettait aux gens de pouvoir régler leurs problèmes. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de boulimie, de grignotage nerveux, et ça les aide. Ça les aide là-dedans.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour les aider pendant l'hypnose?
Alors, je fais différentes techniques. Donc, j'utilise l'hypnose traditionnelle et l'hypnose ericksonienne. Donc, je suis membre de la NGH. Je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
NGH, c'est une association aux États-Unis qui est beaucoup plus, je dirais, directive. Donc, je travaille notamment dans les régressions, hein, dans les régressions dans l'enfance, pour aller libérer certains problèmes, certains troubles. Et puis, j'utilise l'hypnose ericksonienne pour tout ce qui est visualisation, métaphore, transformation, fixation des objectifs.
Et ça permet d'aider les gens.
Ça permet vraiment d'aider les gens, si vous voulez, à casser leurs habitudes alimentaires.
Mais comment ça se passe pendant la séance? Qu'est-ce que vous leur dites?
Alors, pendant la séance, la personne, elle est allongée sur un fauteuil. Parfois, je mets de la musique, parfois pas. Ça dépend ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie. Et puis, je travaille avec, si vous voulez, des suggestions post-hypnotiques.
Mais comment on fait pour hypnotiser quelqu'un déjà? Moi, je croyais que c'est un truc qu'on voit dans les tours de magie, ça. Mais
tout à
mais
fait.
Mais comment ça se passe?
Alors,
c'est un peu effrayant quand même.
Alors, disons que l'hypnose spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est deux choses complètement différentes, parce qu'on a l'impression que l'hypnose, déjà à la base, vient du mot hypnose en latin, c'est-à-dire sommeil. Donc, les gens croient qu'ils sont endormis. Or, ils ne sont pas endormis. Ils sont dans un état d'hypersuggestibilité. Ça veut dire dans un état de détente profonde où on va utiliser tout ce qui est la partie, on va dire, si j'ose dire, inconsciente, hein, ces ressources intérieures, parce que on va dire que quelque part nous on n'est pas là pour soigner les gens, hein. On est là pour les accompagner, parce que la personne.
C'est ce qui vous différencie des médecins.
Oui, voilà, peut-être. C'est ouais, ça, ouais. Disons que ouais. La personne, elle a toutes les outils à l'intérieur pour se guérir et pour aller vers l'objectif. Donc l'hypnose va l'accompagner là-dedans, faire sortir le meilleur de soi. Donc oui, parfois il y a des blocages, des émotions, des schémas de vie à traiter. C'est vrai. Et parfois pas. Parfois une simple séance avec des suggestions, de la visualisation, une grande détente, on arrive à traiter beaucoup de problèmes.
Mais on a l'impression que en fait ces différentes pratiques de médecine naturelle vous essayez d'améliorer la situation de la personne qui comporte des troubles et vous ne guérissez pas.
Non, alors moi je pense que dans les thérapies, on ne guérit pas. On n'est pas là pour guérir, on est là pour accompagner. Et peut-être que c'est aussi, comme vous dites, où il faut vraiment faire la part des choses. Hein.
Caroline Moulet, vous avec les fleurs de Bach notamment, est-ce qu'on, c'est pareil, on essaye de soigner des troubles, disons, on ne guérit
alors,
pas.
Peut-être la particularité des fleurs de Bach, c'est vraiment qu'on va traiter le côté émotionnel de la personne, se mettre vraiment en lien, peut-être si c'est les peurs qui dominent ou l'hypersensibilité ou le manque de confiance, et puis on va vraiment essayer d'équilibrer à ce niveau-là, plus au niveau émotionnel. Mais on peut aussi s'apercevoir que l'émotionnel a une grande influence sur le corps, et quelqu'un qui est très stressé ou qui a d'énormes peurs va peut-être se provoquer des problèmes au niveau digestif, etc. C'est vraiment un enchaînement et on essaye d'agir peut-être à la source du problème avant que ça dégénère plus.
Voilà. Ouais. Oui. Alors je rejoins madame par exemple pour tout ce qui est nutrition où les gens ont tendance à manger par compensation du sucré etc. où ils prennent une plaque de chocolat et la finissent d'un seul coup. Souvent on retrouve ce genre de comportement. Je rejoins, c'est souvent un problème à l'enfance. Hein. Donc là, pour en revenir à l'hypnose, le fait d'aller dans l'enfance et d'aller ressentir le sentiment qui est lié à ce problème permet justement de libérer, donc de transformer ce comportement.
On a une question très pratique qui vient de nous arriver par SMS au 939. Bonjour, combien coûte la séance d'hypnothérapie pour maigrir? Merci, c'est une bonne question, c'est vrai.
C'est une excellente question. Alors, ça dépend, en fait, si la personne, elle veut faire que des séances d'hypnose. Moi, personnellement, je suggère de faire les deux, de faire quand même un rééquilibrage alimentaire parce que on sait que la nutrition, c'est quand même l'hygiène de vie et la base. Les séances varient entre 100 et 120 francs. La séance.
Une séance, mais on suppose qu'il en faut plusieurs pour se rééquilibrer.
Tout à fait. Après, il y a des possibilités de faire une association entre la nutrition et l'hypnose ensemble qui reviendrait un petit peu moins cher selon la perte de poids, selon l'objectif de la personne. Mais de combiner les deux, c'est vraiment extraordinaire. On a vraiment des résultats.
Vous avez vraiment eu des résultats probants sur des personnes? Vous avez des exemples?
Oui, disons que comme c'est vraiment ce que je pratique à 100%, oui, bien sûr, il y a beaucoup de pertes de poids, 10, 15, 20 kilos, ça dépend. Les gens qui ont transformé aussi leur habitude, parce que le but, c'est pas de maigrir, hein, le but, c'est aussi de maintenir le poids, de se sentir bien, de stopper les pulsions, c'est de retrouver vraiment une hygiène de vie de tous les jours, et pas se prendre la tête de ce qu'on va manger, de ce que nous allons faire.
Et comment sont perçues en fait vos méthodes de nutritionniste par l'hypnose, par vos confrères, autres nutritionnistes peut-être plus traditionnels?
Alors c'est une excellente question. je ne me suis jamais posé vraiment la question. Hein. Disons que je pratique comme ça. Les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils recherchent quelque chose de plus pour les aider. En plus, je les accompagne toujours avec un CD. Hein. J'ai fait 3 CD en auto-hypnose. Donc, contrôle de la douleur, mincir facilement et réalisation. J'aime bien donner notamment pour les gens qui souhaitent mincir, mon CD mincir, parce que ça permet, si vous voulez, de se détendre aussi. Hein. Faut savoir que, on vit quand même dans une société où il y a beaucoup de stress. Donc, le stress, on va engendrer aussi l'envie de manger, hein, pour compenser. Et le fait d'écouter ce CD, bah, la personne va se détendre.
Mais alors, c'est des CD que vous avez réalisés, des CD audio, donc hein.
C'est des CD audio que j'ai réalisés justement à Fribourg, au studio Paul Farkash. On a fait ça ensemble. Et donc, il y a une musique et si vous voulez, des suggestions.
C'est vous qui parlez ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous dites alors aux gens ? C'est comme s'ils étaient dans une séance avec vous ?
Absolument. C'est comme s'ils étaient dans une séance avec moi, où ils sont tranquillement chez eux, où ils vont retrouver ma voix, si vous voulez. Il y aura des suggestions. Je vais les ancrer pour leur dire de se diriger vers des aliments qui sont sains pour eux, pour se détendre, pour faciliter la perte de poids, l'élimination, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un état d'hypnose, on est dans un état, si vous voulez, d'hypersuggestibilité. Donc les messages vont être enregistrés beaucoup plus facilement.
Mais comment on fait pour que la personne qui est toute seule chez elle, donc qui a son environnement qui peut être perturbé, disons, parce qu'elle est chez elle, elle n'est pas dans un cabinet seulement avec vous, puisse vraiment se mettre dans l'état de détente
Alors, c'est des techniques. Hein. On va faire des techniques avant. Je vais lui apprendre justement à rentrer en auto-hypnose, parce que tout le monde peut rentrer en auto-hypnose.
Comment faut faire ?
Alors, donc là, il y a des cours qui sont donnés d'auto-hypnose. C'est très, très facile. Hein. Vous avez plusieurs techniques. Vous pouvez avoir des techniques de trois doigts, des techniques de couleur, un mot. Enfin, ça dépend un petit peu la personne, si elle est beaucoup plus dans le ressenti ou dans le visuel. Et suite à ça, c'est de rentrer vraiment dans un état d'hypnose par exemple, descendre des marches d'escalier. Puis plus vous descendez, plus profond vous allez, mieux vous vous sentez.
Ah, mais c'est imagé, on imagine. C'est
bien, absolument.
La personne super détendue qui descend les escaliers, c'est peut-être un peu dangereux quand même.
Tout à fait, c'est pour ça que c'est important de le faire dans un endroit où vous êtes bien, ou assise, ou par exemple chez vous, de rentrer dans une bulle de protection. C'est important quand même de prendre 5-10 minutes pour faire ça. Et puis de fermer les yeux, parce que vous allez amener aussi une détente, et en fermant les yeux, vous allez mieux voir à l'intérieur. Et puis là, d'imaginer justement un escalier où vous rentrez, où vous descendez les marches, et puis vous vous détendez, tout votre corps se détend. Et puis ensuite, vous pouvez inventer, faire ce que vous voulez avec votre imagination. Si vous avez une douleur, vous pouvez la travailler, cette douleur. Ou simplement demander un signe à votre esprit inconscient qui vous donne un signe. Ça peut être un picotement, ça peut être des fourmillements, peu importe.
Mais on a souvent l'impression, alors c'est peut-être une légende urbaine ceci dit, hein, mais que dans l'hypnose, ce qui est dangereux, c'est le réveil. Alors là, comment ça se passe ?
Alors, oui, tout à fait. Ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Hein, mais c'est comme si vous étiez en train de vous endormir. Donc, vous n'êtes pas vraiment endormi, vous n'êtes pas vraiment réveillé. Donc, si par exemple, moi maintenant, je mets quelqu'un dans un état d'hypnose et je le laisse là pendant des heures, la personne va se réveiller automatiquement. Au moment où elle décidera, voilà. On n'est pas en train de dormir, hein, on est vraiment dans un état de détente.
Mais on peut laisser une personne comme ça pendant des heures en hypnose ?
Alors, vous pouvez, bien sûr, mais après, il faut la travailler. Hein, parce que, je veux dire, l'hypnose, vous ne rentrez jamais dans un état de profondeur. Il y a plusieurs niveaux. D'ailleurs, quand on traite mincir, avec l'hypnose, on est souvent dans un niveau 1, un niveau très léger. Si, par exemple, vous allez faire une anesthésie, vous allez être vraiment à un niveau très, très profond. Donc, après, ça dépend des profondeurs que vous souhaitez aller. Rien à voir. C'est pas parce que vous allez plus profond que vous allez mieux réussir. Ça n'a rien à voir.
Quand on vous entend parler de cette thérapie naturelle, là, vous pratiquez l'hypnose, mais on a parlé aussi, on se recentre beaucoup sur la personne, on parle de l'esprit. On a un peu l'impression, et là je vous attaque un petit peu, mais c'est pour avoir d'autant plus de réponses, que ça fait grande secte, ou ça fait un peu sorte de groutisme. C'est un peu l'impression que ça donne. D'ailleurs, les sites internet sont souvent accompagnés de musique tranquillisante, tout ça. C'est vrai que ça fait un peu groutisme.
C'est un peu dangereux, je trouve. Il faut faire très attention, il faut rester avec les pieds sur terre. Et garder son bon sens et laisser travailler son intuition et le bon sens et bien choisir sa méthode. C'est vrai, c'est une jungle, it's a real jungle.
C'est vrai?
Oui, yeah. Je trouve aussi, et je prends une grande distance, vraiment avec des gants.
Mais comment on fait alors pour reconnaître
il faut vraiment laisser bien rester avec les pieds sur terre, je dirais, et puis garder son bon sens et son intuition, et bien voir aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est assez dangereux. Moi, je suis très sceptique à tout ça.
Mais alors, quel est vraiment le danger, disons? Parce que c'est vrai que si on tombe sur un charlatan, il va pas nous faire grand mal avec quelques fleurs ou avec quelques points de pression sur la nuque. Enfin, c'est, à part le fait de se faire rouler, ce qui est quand même embêtant, on risque pas grand chose, non, Caroline Moulay?
Je pense que le danger, ce serait la prise de pouvoir que pourrait avoir le praticien sur une personne qui est peut-être fragile ou affaiblie émotionnellement ou physiquement. Exactement. Et c'est là, je pense, le plus grand danger. Maintenant, je pense qu'avec Internet, il y a un côté positif, c'est que les personnes peuvent vraiment aller rechercher les informations, comparer une personne à une autre, son parcours. Je pense que si sur un site Internet, c'est noté le parcours professionnel, la formation qu'a fait la personne, c'est aussi quelque part une garantie de qualité, entre guillemets.
Après, la personne peut dériver aussi.
Mais je pense que si on donne une référence, qu'on a fait une formation à telle école, on pourrait encore contrôler auprès de cette école.
Des références qui sont importantes.
Absolument.
Il faut absolument bien savoir où la personne est formée, quel diplôme il a, à quelle association il appartient. Il y a des moyens de contrôle. Et si ça manque, il faut faire attention. C'est justement le pouvoir. J'aime bien que vous avez dit ça. Oui. C'est le pouvoir très très dangereux. Et puisque les personnes sont souvent fragiles, dans une phase difficile de leur vie, ils sont très vulnérables. Donc il faut avoir beaucoup de respect et beaucoup être bien professionnel, bien travailler, mais en même temps être très modeste.
Vous, Dorothée Derens, qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Je rappelle que vous êtes praticienne de shiatsu. Alors, expliquez-nous peut-être premièrement, vraiment, qu'est-ce que c'est le shiatsu? Pour vous dire l'incompétence de laquelle je fais preuve, je croyais que c'était un art martial. Donc,
Non, pas du tout. Voilà. Vous avez pensé à tai chi, qigong, tout ça. Voilà. Non, shiatsu. Shiatsu, c'est japonais. C'est une très ancienne méthode qui a été redécouverte dans le 20e siècle. Et ça veut dire shi, c'est pouce, et atsu, c'est pression. C'est donc une sorte d'acupressure, si vous voulez le dire très globalement. C'est basé en théorie sur la médecine chinoise. Donc on étudie tous les méridiens, les bases, les cinq éléments, le yin et le yang. Tous ces principes rentrent en compte dans la pratique du shiatsu. Et puis, pour la philosophie, il est basé sur le bouddhisme. Et la formation se fait dans des très bonnes écoles reconnues. Il y en a quelques-unes en Suisse. Moi, j'ai fait ma formation en Allemagne et aux États-Unis. Je suis hollandaise, donc avec le Switzerland, j'avais un peu de mal. Où est-ce que j'en suis? Le shiatsu est donc beaucoup développé maintenant dans l'Occident, surtout. En Occident, on a beaucoup d'intérêt pour cette méthode parce qu'il est une très bonne méthode pour aider, par exemple, une personne à rentrer dans son corps.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qui suis-je? Beaucoup de gens sont disconnected, ne sont plus connectés à leur corps. Et le shiatsu ne fait pas seulement ça, il fait aussi, en fait, ce que le reiki et l'hypnose fait. Il donne une très très grande détente, une détente très profonde, et ça aussi met la personne en contact avec qui il est, où il est et où il pourrait aller.
Alors, ça reconnecte les gens
avec leurs émotions. Et puis, on peut travailler très ciblé en parlant avant la séance avec les personnes, en posant quelques questions, en regardant la personne, en écoutant la personne. Déjà, on voit la personne quand il entre. On peut avoir déjà beaucoup de données pour cibler le traitement sur un certain problème.
Mais après, sur la pratique en elle-même, comment ça se passe?
La personne, il est couché sur le futon, un lit japonais, c'est par terre, je travaille donc par terre. La personne est vêtue, est habillée, je touche en principe pas la peau, sauf le visage, la nuque et les mains. Et puis, par des rotations, des étirements, des pressions profondes, d'une certaine durée, on remet les méridiens dans leur bonne direction.
Qu'est-ce que c'est, les méridiens?
Les méridiens sont des courants d'énergie. qui sont partout dans le corps. Ils ont un certain tracé. On peut pas les dissecter anatomiquement, mais on peut les sentir. Et on peut voir aussi les déséquilibres énergétiques dans un corps. Il suffit d'ouvrir ses yeux.
Oui, parce qu'effectivement, dit comme ça, ça paraît quand même un peu abstrait.
Oui, c'est abstrait. C'est très difficile à expliquer. On ne peut pas l'apprendre dans un week-end. Ça prend beaucoup de temps. Et d'un côté, c'est une science, bien sûr. D'autre côté, c'est aussi un art. Et c'est quelque chose qu'on développe. Et ça prend du temps.
On va écouter un petit peu de musique à l'ombre du baobab, histoire de se détendre. Puisque nous parlons de médecine naturelle ce matin, on se retrouve dans un tout petit instant.
À l'ombre du baobab.
Micro présente Das Zelt. Avec Yann Lambiel et son tout nouveau spectacle, au suivant. L'imitateur se dévoile sous un autre jour et se produit dans un show musical et truculent avec un orchestre live. En plus, ce dimanche après-midi, Cuche et Barbeza font des bêtises pour toute la famille. Das Zelt, du 6 au 16 mai sur la place de la Poya à Fribourg. Info et réservation de billets sous Ticket Corner ou daszelt.ch.
Radio Fribourg et l'Espace Mutoni présente
L'Ogrelet de Suzanne Lebeau par la compagnie MTGAT. Fils d'ogre, aux veines pleines de l'impérieux goût du sang, l'Ogrelet ne pourra dompter ses instincts primaires que s'il se confronte à la tentation. Merveilleux conte initiatique pour jeunes publics dès 7 ans. L'Ogrelet, samedi 1er et dimanche 2 mai.
Location Fribourg Tourisme ou www.nuitoni.ch.
Qui veut gagner des invitations? Alors envoyez un SMS au 939 en tapant « Moi », un espace, « Nuit Tony », un espace et vos coordonnées.
Salut, c'est moi, la radio. Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
98% des Suisses écoutent la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, la pub radio touche tout le monde, partout, toute la journée.
C'est bon de se sentir 100% utile.
Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas.
Contactez-nous, Mediapub, au 026 351 50 80 ou sur mediapub.ch.
Radio FR vous présente les bonnes tables de la région.
Ainsi fu, les petites marionnettes, la la la.
C'est un siphon, pas un sifu.
Eh ben non, dans l'univers de la Croix-Blanche à Pozieux, tu peux acheter de délicieuses bières artisanales en fût de 5, 10 ou 15 litres.
Ça m'intéresse. Je vais aller découvrir leur nouvelle carte printanière et j'en profiterai pour commander un fût de bière.
Commande-en un pour moi, s'il te plaît. Ce week-end, je vous invite. La 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 la.
Restaurant Al Capone à Villars-sur-Glâne, bonjour.
Ah, bonjour. Le restaurant n'est pas fermé?
Non, monsieur. Le restaurant est bien ouvert. Restaurant Al Capone à Villars-sur-Glâne, bonjour.
Et on peut manger chez vous?
Oui, monsieur. Nous sommes certains que notre carte ne pourra que vous surprendre. Restaurant Al Capone à Villars-sur-Glâne, bonjour.
Dernière question. Et monsieur Al Capone, il est où?
Je ne sais pas. Et si Al Capone était une femme?
La détente, appuyez. Et allez-y, vite, à la détente. Fondue Bressane, bourguignonne détente, un délice. Sans oublier son fameux barbecue à discrétion. Mais à la carte ou menu composé, tout pour vos repas d'entreprise, de famille ou une sortie entre amis. Go, go! Grill, la détente à Cornabœuf. Mieux, tu meurs.
Radio Fribourg, dans le canton de Fribourg, sur 89.4. Et partout dans le monde, sur www.radiofr.ch.
Let you be.
Baobab, c'était Muse et c'était le choix de Caroline Moulet. Expliquez-nous pourquoi, c'est une jolie anecdote ça.
En fait, c'est mes filles qui me font découvrir des groupes comme ça. Et là, Muse, j'adore. Et c'était un petit clin d'œil pour ma fille Kelly qui est aux États-Unis en ce moment.
Et qui nous écoutera par internet.
Exact.
En podcast, quel bon choix. On discutait un petit peu pendant cette pause musicale et je vous demandais, mesdames, puisqu'on parle de médecine naturelle, on a dit qu'il y avait eu un certain essor vraiment ces dernières années. Comme je vous le disais, il n'y a qu'à aller voir sur internet, c'est impressionnant. Mais est-ce que vous avez vraiment senti, vous qui êtes dans ces pratiques-là depuis quand même un certain temps maintenant, vous avez vu vraiment cet élan et depuis quand?
Alors, moi j'ai pu voir au début de ma pratique, il y a une quinzaine d'années, que justement l'âge peut-être des personnes qui s'intéressaient à ça était beaucoup plus élevé qu'actuellement. C'était peut-être des personnes de 40-50 ans qui s'intéressaient à ça. Et actuellement, on voit depuis 10 et même 5 ans où il y a vraiment un grand engouement, que c'est de plus en plus jeune aussi qu'on s'intéresse à ça.
Et comment ça se fait en fait qu'on s'est intéressé vraiment à ces pratiques naturelles? Est-ce qu'on a été déçus? On a l'impression que les médecins ne prennent pas en compte nos petits bobos de tous les jours ou...
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. Et puis ils prescrivent quand même souvent beaucoup de médicaments qui ne rendent pas forcément les gens mieux, c'est très dangereux de le dire, mais les gens ont besoin d'écoute et d'une simple toucher, un bon et simple toucher.
Mais il fut un temps, alors on allait chez un psychologue, si on a besoin d'écoute, non?
Pas seulement, aussi chez une thérapeute shiatsu ou chez une thérapeute reiki ou chez une thérapeute hypnotique ou bien chez une très bonne amie. Ça va aussi. Mais les gens sont de plus en plus stressés, ont besoin de se détendre, à se vider la tête, à se sentir mieux dans leur corps et dans leur vie surtout. Et ça c'est, la médecine est très très puissante et très développée et très avancée. J'ai un grand respect pour ce qu'ils peuvent faire. Et j'ai fait mes expériences aussi. Mais en complément, on a besoin d'une écoute et d'une compréhension et d'une vraie compassion. Et ça, c'est bien sûr très, très bouddhique et pas très occidental.
C'est votre première qualité à toutes les trois, la compassion?
Je pense qu'il en faut, oui.
Oui,
c'est sûr.
Ouais.
Pourquoi on se dirige vers le shiatsu, par exemple?
J'étais infirmière à la base. Et déjà, à l'époque, c'était dans les années 60 que j'étais infirmière. J'étais souvent critiquée parce que je prenais trop de temps avec les patients. Je devais courir, me stresser. Et il y avait beaucoup de boulot, c'est vrai. Et à l'époque, il y avait plus de personnel, heureusement, que maintenant. Maintenant, une infirmière, elle doit tout le temps compter ses minutes. Et puis, ça m'a frustrée. Mais entre-temps, j'ai eu une famille, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai habité dans plusieurs pays. Et changer deux fois de langue. Et donc, ça m'a beaucoup occupée. Mais l'idée de soigner, d'être auprès de quelqu'un qui souffre, ça m'a toujours attirée. Et c'est comme ça que je suis arrivée au shiatsu. J'ai découvert cette méthode dans les années 90. Et j'étais très impressionnée parce que j'ai d'abord reçu moi-même du shiatsu. Je connaissais pas, je ne comprenais pas, mais c'était pas nécessaire. Parce qu'en fait, le traitement même me faisait tellement du bien que tout le temps, Je me disais, au lieu d'une femme de ménage, je me permets ça. C'était mon luxe. Et ça m'a beaucoup aidée à être une meilleure mère de famille. Et après quelques années de traitement, je me suis dit, voilà, je veux apprendre ça pour pouvoir donner. Et j'ai fait une très bonne école en Allemagne. Et depuis, je suis praticienne. Voilà.
On se disait durant cette pause qu'au final, peut-être que toutes ces méthodes amènent quand même plus ou moins au même résultat. Mais l'important, c'est de choisir celle qui nous convient. Mais comment on fait pour choisir ? Il y en a tellement de ces méthodes. Comment on fait pour savoir laquelle nous correspond, Caroline Moulet ?
Alors, je pense que c'est bien de comparer, de pouvoir peut-être éventuellement aussi tester. Peut-être qu'il y a des personnes pour se ressourcer qui ont besoin d'aller à la plage, et puis il y a des personnes qui ont besoin de vraiment ressentir ce qui se passe dans leur corps. Et le fait de rencontrer peut-être un thérapeute ou un praticien déjà permet de sentir si on a un feeling avec cette personne et si ça va nous convenir. Et je pense que ça, c'est une possibilité qu'on doit offrir aux personnes, de nous rencontrer, peut-être 10 minutes, quart d'heure, de discuter, de savoir comment on pratique, et puis de repartir libre et éventuellement prendre un rendez-vous plus tard.
Ouais. C'est très important, ça, de se sentir bien ensemble. Mais alors, ça doit aller dans un sens. Mais pour vous, si le client, vous ne le sentez pas, ça peut arriver, ça ?
Ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas.
Ça peut arriver, mais il viendra une fois et plus jamais.
Parce que lui va le ressentir aussi.
Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut vraiment être en confiance, tous les deux.
Caroline Moulet, vous avez ouvert, vous, le centre Surya à Villarimbout,
oui.
Donc dans le district de la Glane. C'est un centre où vous faites beaucoup de choses, en fait.
Oui.
Il y a le Reiki, notamment les fleurs de Bach, on en a parlé, mais il n'y a pas que ça. Expliquez-nous un petit peu tout ce que vous faites et d'où ça vous vient, tout ça.
Alors, en fait, dans mon parcours, c'est un décès qui a bouleversé ma vie il y a 15 ans. Et où j'ai dû prendre des calmants, et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, mes enfants étaient petites, et j'ai reçu un traitement de Reiki et ça a changé ma vie. Mm-hmm. Et en fait ça m'a intéressée, donc je me suis formée. Et puis quand on commence à entrer dans ce domaine, on est vraiment passionné, et il y a chaque fois autre chose qui nous interpelle et qui nous intéresse. Donc j'ai continué un petit peu avec les fleurs de Bach, les massages également, la lithothérapie.
La lithothérapie,
c'est vraiment un traitement également énergétique, mais on utilise des pierres. Vraiment le pouvoir énergétique et vibratoire des pierres pour équilibrer la personne. Mais c'est pas quelque chose qui est reconnu ou agréé par des assurances.
Contrairement au Reiki et aux fleurs de Bach.
Voilà, exactement.
Oui. Vous dites que vous avez reçu une thérapie de mm-hmm. Reiki, mais c'était une thérapie alors pour soigner quoi ? Et puis comment ça se passe, une thérapie de Reiki ? Qu'est-ce qu'on y fait vraiment concrètement ?
Alors, je peux vraiment voir des similitudes avec aussi l'hypnose et le shiatsu, parce que ça amène vraiment la détente, et puis ça amène ce calme, je dirais, comme quand on est entre l'éveil et le sommeil.
Ouais.
C'est vraiment un peu cet état-là. Ouais. Ça veut dire que la personne est pleinement réceptive, ça veut dire que la détente est très profonde. Les personnes, des fois, s'endorment, c'est pas un problème, parce que l'effet va quand même être positif. Dans un traitement de Reiki, la personne s'allonge sur la table de massage, elle reste habillée, et moi, je vais simplement travailler sur tout le corps, en posant mes mains et en laissant l'énergie circuler.
Mais ça veut dire que vous devez sentir de l'énergie.
Exactement, oui. C'est vraiment être un canal, ça veut dire capter l'énergie qui nous entoure, être ce canal et retransmettre cette énergie. Mais c'est pas moi qui fais le travail, c'est vraiment la personne qui va utiliser cette énergie pour sa propre guérison, que ce soit une guérison physique ou émotionnelle ou spirituelle. Parce que parfois, le fait de prendre conscience de quelque chose ou de prendre conscience d'un schéma permet une guérison sous une autre forme, peut-être pas forcément physique, mais c'est vraiment d'amener cet état de relaxation qui permet la prise de conscience, parfois le soulagement des douleurs, parce qu'on a aussi des résultats extraordinaires. Mais je pense que quelle que soit la thérapie qu'on choisit, c'est surtout celle qui va nous convenir, qui va être positive.
Ouais. Franck Cascozzari, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, disons que par exemple, pour revenir à l'hypnose, si je prends l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment un outil qui permet activement d'accéder à notre inconscient et à partir de là, de transformer les blocages intérieurs. Et l'auto-hypnose, c'est un petit peu différent, c'est que l'auto-hypnose, vous êtes seul, vous apprenez vous-même à rentrer dans cet état. Et puis, suite à ça, combattre le stress, la fatigue, le surmenage, de pouvoir également améliorer la concentration chaque jour. C'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser tous les jours.
Et ça fait du bien.
Et ça fait du bien parce que vous vous ressourcez, en fait, après une journée de stress ou même pendant votre travail. Au lieu de ressentir, par exemple, la colère contre un collègue, etc., de pouvoir vraiment prendre 2 secondes pour vous, de rentrer dans cet état, de créer une bulle de protection et de pouvoir, disons, de laisser venir toute cette belle ressource. Et alors là, on se sent beaucoup mieux.
Mais par exemple, avec le Reiki, qu'est-ce qu'on soigne vraiment des... Est-ce qu'on peut soigner des choses qu'on pourrait soigner en allant chez un médecin traditionnel?
Alors, on se substitue pas, bien sûr, à un médecin, ça c'est clair. C'est vraiment complémentaire à un traitement médical s'il y a une maladie, ça c'est sûr. Maintenant, souvent, les personnes viennent me voir, ou un praticien de Reiki, aussi en prévention, parce que peut-être ils sentent que tout à coup le stress monte, ou qu'il y a peut-être ce problème digestif, ou ces maux de tête, qui n'ont pas forcément une cause connue consciemment. Et ils agissent avant peut-être que ça dégénère. Et c'est ça qui est important aussi. C'est cette prise de conscience du fait que on n'attend pas de tomber gravement malade, oui, mais peut-être on se prend en charge avant. Oui. Et ça, je pense que c'est dans toutes les thérapies, oui, oui, qu'on peut proposer. C'est vraiment aussi ce qu'on essaye d'amener, que, oui, la personne soit aussi le propre artisan de sa guérison, oui, se prenne pleinement en charge. On va l'accompagner. Oui. On va pas faire pour lui.
Dans la tradition orientale, on soigne la santé. C'est ça. On prend soin de sa santé.
Et on n'attend pas.
Et là, le shiatsu est une méthode, Reiki aussi, Tai Chi aussi, Jigong aussi. Ce sont des... Tai Chi, c'est une art martial, effectivement. Mais il fait aussi... il nous équilibre aussi nos énergies. Le Jigong, c'est une gymnastique chinoise, traditionnelle, très ancienne aussi. Aussi une méthode, on voit dans les places publiques, en Chine, au Japon, on voit les gens se faire ces mouvements très lents qui font beaucoup de bien, qui recentrent. C'est une excellente méthode de rester en harmonie avec soi-même.
Mais plus que des médecines naturelles, disons, c'est carrément toute une philosophie de vie, quand
c'est
même.
C'est ça. C'est exactement ça.
Oui,
ouais. Je crois que c'est ça.
C'est ça. C'est une façon, c'est une art de vivre. Mmh. C'est une art de vivre qui rentre, les gens prennent beaucoup d'intérêt ici en Occident parce que nous ne savons plus vivre. On fait pas mal d'erreurs dans notre hygiène de vie, déjà point de vue nourriture, mais aussi point de vue le stress au travail, nos pensées, surtout.
Ça veut dire qu'il y a des gens certainement qui viennent chez vous en se disant ils sont pas malades, ils ont, il y a quelque chose qui va pas, ils se sentent un petit peu déréglés, mais ils savent pas pourquoi. Oui. Et puis ils s'adressent, voilà, à vous.
Oui, exactement.
Ça c'est idéal.
Par exemple, pour les phobies, par exemple, des gens qui ont des phobies.
Vous traitez aussi les phobies ?
Oui, on traite les phobies sous hypnose, donc phobie d'araignée. Il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils n'en peuvent plus de toujours paniquer chaque fois qu'ils voient une araignée. Donc là, en une, deux séances, c'est liquidé.
Mais alors, est-ce que vous vous ciblez vraiment au problème de l'araignée ? Comment ça se passe ?
Alors, je me cible à l'émotion que la personne ressent quand elle voit l'araignée. Pour quelle raison elle a ça ? Qu'est-ce que l'araignée provoque chez elle ? Donc ça peut découler aussi d'une croyance.
Mais ça passe par un espèce... Enfin, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est tout le temps un espèce de flux d'énergie. Comment on fait pour s'immuniser alors soi-même ? Parce que je pense qu'on doit prendre les mauvaises énergies. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais on a l'impression que c'est vraiment un flux constant d'énergie. Mmh. Et vous ne prenez pas après tout sur vous ?
Non, parce que je pense que voilà, c'est aussi une philosophie de vie et... Mmh. Et en fait, on apprend aussi à faire avec, et puis on prend aussi soin de soi-même. Mm-hmm. Je pense que dans toutes ces techniques qu'on a entendues, c'est amener vraiment le calme à l'intérieur de soi. Par exemple aussi par la méditation, et c'est vrai que, comme l'a dit madame, dans la société actuelle, on est plutôt toujours dans le faire et dans l'agitation, et on n'apprend plus à être justement, juste être. Mm-hmm. Et pour moi, ça me pose pas de problème, en tout cas, d'avoir de mauvaises énergies ou je sais pas quoi, parce que je suis vraiment centrée et je pense que avec la pratique, c'est vraiment ce qu'on développe, à être vraiment les pieds sur terre, comme vous avez dit tout à l'heure.
Oui, on apprend à être bien centré, surtout, à se protéger aussi. Et le shiatsu a changé ma vie. Moi, je vis autrement qu'il y a 20 ans.
Vous aviez une autre hygiène de vie avant.
Oui.
Bah, vous nous le disiez, vous étiez infirmière, vous n'en pouviez plus d'être tout le temps stressée, de compter vos minutes.
Oui, et ça a beaucoup changé. Mais pour ça, j'ai aussi abandonné beaucoup de choses.
Comme quoi?
Faire trop de choses, mettre trop de choses dans mon agenda. Toujours dire oui, ça. Oui, ça aussi. Jamais dire non. Faut apprendre à dire non et à bien choisir. Bien choisir les gens avec qui on s'entoure, les choses qu'on veut faire, qu'on veut voir, les choses qu'on veut lire. Tout ça, c'est une... on ne veut pas s'entourer de choses mauvaises, qui me rendent malheureuse, finalement. Ouais.
Bien choisir. Eh bien, écoutez, si vous nous écoutez ce matin à l'ombre du Baobab, c'est que vous avez fait un bon choix. Et on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Radio FR.
Radio Fribourg, en ville de Fribourg, sur 106.1.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk. Nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speaker.
À l'ombre du baobab.
À l'ombre du baobab, nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités ce matin où nous parlons médecine naturelle avec ces trois invités, donc avec Franca Scozzari, avec Caroline Moulet et avec Dorothée Derens. Caroline Moulet, on a parlé du Reiki que vous pratiquez donc dans le centre Souria à Villarimbourg. Vous faites également des traitements et des thérapies, disons, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça vraiment, par les fleurs de Bach. Ça, c'est une méthode peut-être moins, disons, spirituelle quand même.
Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus concret. Ça va vraiment correspondre aux personnes qui ont besoin de faire quelque chose. Le fait de devoir prendre une dilution avec des fleurs de Bach permet aussi d'agir, parce que la personne va se dire « je dois prendre mes gouttes ». Et ça veut dire que c'est un traitement qui dure environ 2-3 semaines selon la dilution qu'on a fait, selon l'état émotionnel aussi de la personne, et qu'on peut renouveler aussi.
Mais les fleurs de Bach, on en parle beaucoup, beaucoup depuis quelques années, mais c'est très vieux ça quand même.
Oui, c'est le docteur Bach qui a découvert ça, qui s'est vraiment mis en lien avec la vibration des fleurs et qui a fait toutes sortes de tests et qui a vu que certaines fleurs correspondent à certains états émotionnels de la personne. Et on agit vraiment sur l'état émotionnel en premier.
Mais qu'est-ce que ça diffère en fait des qu'est-ce qui diffère avec les naturopathes ou avec l'aromathérapie? C'est aussi, il y a des huiles essentielles.
L'aromathérapie, c'est les huiles essentielles. Là, ce sont des essences de fleurs. En fait, c'est des fleurs qui ont été exposées au soleil, qui ont été mises dans de l'eau de source, et on utilise cette base pour faire les dilutions.
Mais est-ce que tout ça, au fond, c'est pas plutôt un effet, ça pose pas un effet psychologique, surtout pour la personne?
Oui, je pense qu'il y a toujours un effet placebo. Et je discutais avec un médecin qui me disait que quand elle était en pleine forme et qu'elle disait « voilà, je vous donne ça et vous irez mieux », le patient allait mieux. Et si elle donnait juste une ordonnance, le patient revenait au bout d'une semaine. Donc il y a de toute façon un effet placebo. Je pense, selon l'énergie qu'on va mettre et le fait qu'on soit convaincu de quelque chose.
Il y a, je pense, et qu'on soit convaincante alors.
Peut-être. Il y a, je pense, le 30% de tout traitement qui a un effet placebo. Oui.
Même les médecins, les traitements médicamenteux.
Certainement, oui. On voit aussi dans la lutte contre le cancer ou comme ça, ouais, si la personne a vraiment une attitude positive, ça change aussi dans le traitement.
On a discuté en tout début d'émission de vos rapports en fait avec la médecine traditionnelle. Alors vous y êtes pas du tout opposé, hein. C'est une complémentarité, vous nous l'avez dit. On parlait de vos rapports avec les médecins, et il y a aussi bien sûr la question au fond de la médecine naturelle, est-elle prise au sérieux, est-elle tout simplement remboursée? Comment ça se passe? Vous trois, vous avez des pratiques qui sont remboursées par les caisses maladies, Franca Scozzari?
Alors pour la nutrition, oui. Pour l'hypnose, non.
Mais si vous pratiquez les deux en même temps, comment ça se passe alors?
Disons que c'est un petit peu délicat, parce que si la personne elle vient pour un problème de poids, oui, maintenant si elle vient pour autre chose comme l'arrêt de tabac, les phobies ou ce genre de choses, non, ça sera pas remboursé.
Comment ça se fait?
Parce que l'hypnose, pour l'instant, il y a très peu de gens qui le pratiquent, d'une part, et c'est encore pas vraiment reconnu au niveau des caisses, même si c'est une méthode très très ancienne. Hein. Freud a utilisé l'hypnose aussi, donc... Mais disons que c'est quelque chose de bref, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de séances.
D'accord, ok. Dorothée Derens, vous, le shiatsu, c'est reconnu et c'est...
Si, on a les bons diplômes, oui. Et moi en l'occurrence, j'ai un diplôme reconnu en Suisse. J'appartiens à l'Association Suisse de Shiatsu. En plus, le registre de médecine empirique et à l'ASCA.
Donc, qu'est-ce que c'est, l'ASCA?
ASCA, c'est aussi une association comme... le registre des médecines empiriques, c'est une organisation qui fait la promotion de la médecine naturelle et qui exerce un certain contrôle sur la qualité des thérapeutes qui sont sur leur liste. Mais donc on est obligé par exemple toutes les années de faire un minimum 20 heures de formation.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Vous devez tout le temps faire de la formation continue.
Formation continue. Il y a des cours qui sont offerts par ces écoles. Et puis, il faut donc toujours fréquenter des cours reconnus et prouver qu'on a suivi le cursus.
Il y a beaucoup de contrôles?
Il y a, oui, il y a, il y a pour la RME et la ASCA, ils contrôlent bien. Et l'association suisse aussi.
Ouais. Vous, Caroline Moulet, on est déjà venu contrôler le travail que vous faisiez, voir...
On n'est pas venu nous contrôler, mais on demande justement, par exemple, l'attestation de formation continue chaque année qui doit être présentée à l'ASCA. Et par exemple, le Reiki, les fleurs de Bach, ça c'est reconnu. Certains massages, également. Je pense que c'est aussi un garant de qualité, le fait de devoir se former, de continuer à se former. Et j'encourage aussi mes élèves qui viennent en formation de toujours continuer cette formation, parce que finalement, plus on apprend, puis plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas beaucoup de choses.
Oui, c'est vrai aussi,
Oui, aussi, il y a le médecin conseil des caisses maladies qui nous envoie parfois des rapports. Je le vois fréquemment en nutrition, genre remplir des rapports pour les raisons pour la.
Ouais. Voilà, moi aussi, je reçois souvent.
C'est vrai que Caroline Moulet, vous soignez, enfin vous guérissez, vous êtes praticienne, disons sur des patients, sur des clients, mais vous formez aussi beaucoup de gens, vous donnez énormément de cours.
Oui, énormément, pratiquement tous les week-ends, je donne des cours de formation en Reiki. J'ai deux formatrices qui donnent les formations en fleurs de Bach parce que j'ai pas assez de week-ends dans un mois autrement. Mais je vois qu'il y a vraiment un grand intérêt à se former, mais c'est juste des fois pour soi-même ou pour sa famille, parce qu'on peut vraiment s'auto-traiter aussi avec le Reiki, avec les fleurs de Bach aussi. Et puis après, si la personne a vraiment envie de le pratiquer en tant que professionnel, alors il y a tout un cursus aussi à suivre. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Pour une formation complète de praticienne en Reiki, il faut compter quand même 3 ans.
Mais ça vous fait de la concurrence si vous formez
Non, j'adore, parce que je pense que les personnes qui viennent se former chez moi vont toucher des personnes que moi je toucherai pas. On peut pas être partout non plus. Et je pense que petit à petit les personnes apprennent à se prendre en charge. Et c'est vraiment le but de toutes ces thérapies naturelles. C'est pas de créer une dépendance. C'est vraiment de donner la liberté à chacun de se prendre en charge.
Ce qui est marrant chez vous, Caroline Moulet, c'est que vous proposez c'est comme si c'était une journée à la ferme. Enfin, il y a cette expression. Alors, c'est vrai que Villarimbout, quel beau village. Alors, ça, je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est vrai que c'est également un espèce de retour à la nature. Enfin, ça va dans toute cette philosophie.
Oui, et je pense que c'est vraiment apprécié. Les personnes apprécient de pouvoir aller un peu dans le jardin, d'être vraiment dans un endroit calme. C'est une journée ou deux journées de cours. Mais en même temps, c'est vraiment également un retour aux sources, c'est vrai.
Oui. Dorothée Derens, vous êtes praticienne de Shiatsu à Fribourg. Vous étiez avec nous ce matin. Également Franca Scozzari, vous êtes nutritionniste. Vous tenez le centre Espace Vie à Ria. Vous avez également un cabinet à Vevey. Vous pratiquez notamment l'hypnose. Vous réglez les troubles du comportement alimentaire, mais pas seulement. Hein. Vous avez dit, vous avez parlé à demi-mot du traitement du tabagisme.
Exactement. J'organise mes ceci à Vevey. Cessez de fumer pour ceux qui s'intéressent.
D'accord.
En soirée.
Très bien. Merci. Par l'hypnose. Et puis avec nous également Caroline Moulet, qui tient le centre Souria à Villarimbout. Vous êtes spécialisée notamment dans la pratique du Reiki. Vous êtes aussi une spécialiste des fleurs de Bach et puis de plein d'autres choses. Vous organisez des cours, vous faites
beaucoup
plein de
développement personnel également, parce que je pense que c'est vraiment en parallèle. Je pense un bon thérapeute ou un bon praticien doit aussi se connaître en premier lieu. Donc le développement personnel fait partie.
Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce matin à l'ombre du Baobab pour nous parler de médecine naturelle. À très bientôt, bonne matinée à tous.